Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin.
La nuit du livre d'images. Depuis mercredi dernier et jusqu'à lundi prochain se tient à Montreuil le 34e Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, rendez-vous qui rassemble chaque année des lecteurs, des auteurs et des éditeurs. On peut y découvrir des expositions, des parutions récentes, y acheter des livres ou tout simplement se blottir dans un coin pour les dévorer tranquillement. C'est l'occasion que nous avons quant à nous saisie pour nous plonger à notre façon dans l'univers des livres dits « pour enfants » et au sein de ce grand, de ce très grand même domaine éditorial, nous avons eu envie de nous intéresser à ces livres que les Allemands appellent des Bilderbuch, les Anglais disent des picture books, en France on parle d'albums, mais ce sont bien des livres d'images, c'est-à-dire des livres où l'image a toute sa place, et parfois même la première place. Alors au programme de notre nuit, nous irons d'abord explorer une page importante de l'histoire de ces livres en France en écoutant un documentaire consacré aux albums du père Castor. Puis on entendra la comédienne Coralie Sérig lire l'histoire de Babar, le petit éléphant. C'était pour l'émission Première lecture, lecture d'enfance en 1989. On écoutera aussi ce que les auteurs et dessinateurs d'albums ont à nous dire de leur travail. Grégoire Solotarev dans une émission de 1993, Quentin Blake en 2012 et puis Tommy Ungerer, l'auteur des Trois Brigands, au micro de Martin Kenéen dans Avoie Nue en 2012 aussi. On écoutera Aglaé fait des histoires, une fiction signée Françoise Gerbollet et diffusée dans l'émission Les histoires du pince-oreille en 1993. Et pour finir, un beau portrait de Martine, l'héroïne de la série d'albums des éditions Casterman. Le documentaire s'intitulait joliment « Martine à la radio » et il avait été diffusé pour la première fois dans « Surpris par la nuit » en 2003. Mais avant tout cela, nous avons le grand plaisir de recevoir pour commencer Anaïs Vaugelade. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous pour ouvrir cette nuit. Vous êtes l'auteur de très nombreux albums pour enfants dont vous concevez à la fois le texte et les dessins. Et ce, depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Un peu plus, on arrondit. Vous êtes aussi parfois illustratrice d'histoires écrites par d'autres. Il vous est aussi arrivé de concevoir des séquences animées pour des films. Bref, vous faites des tas de choses. On va parler de tout ça. Mais pour commencer, j'ai envie de vous demander tout simplement comment est-ce que tout ça a commencé pour vous? Comment est-ce que c'est devenu un métier, celui d'écrire des livres pour les enfants?
Ça remonte donc à loin, parce que mon premier livre, j'avais 19 ans. Donc
c'est très jeune.
C'est vraiment de la vieille histoire.
Ouais, mais ça veut dire que vous avez commencé toute jeune.
J'ai commencé toute jeune, oui. J'ai commencé toute jeune parce que je venais d'arriver à Paris. Je suis arrivée à Paris à 17 ans. Et la question centrale de mon existence, c'était comment gagner de l'argent.
Comme pour beaucoup de gens.
Comme pour beaucoup de gens, voilà. Donc j'ai commencé par faire des babysitting, donner des cours d'histoire géo, j'ai vendu des sacs à main, j'ai vendu des légumes sur les marchés, etc. Et tout ça n'était pas vraiment suffisant pour mener une vie d'étudiante à Paris, même une vie d'étudiante pauvre, c'était pas assez. Et un ami m'a dit, en fait, tu vas pas y arriver, tu vas pas réussir à faire des études comme ça, il faut que tu trouves une manière de gagner plus d'argent. J'étais complètement désemparée, comment ? Il a eu cette réflexion géniale qui était « Tant que tu fais des métiers que, a priori, tout le monde peut faire, tu ne seras jamais suffisamment payé. Il faut que tu fasses un métier que toi seul peux faire. » Je restais un peu interloquée parce que voilà, j'avais donc 18 ans à ce moment-là et je ne savais juste rien faire, rien du tout. Et surtout, rien mieux que les autres, quoi. Et il a poursuivi en me disant « je sais pas, tu dessines. Alors même si tes dessins sont pas les mieux du monde, ces dessins-là, il n'y a que toi qui peux les faire, personne ne peut être dans ta main. Donc fais ça. »
Mais ça veut dire que vous saviez quand même un petit peu dessiner.
Ah oui, non, j'étais là pour ça quand même. J'ai quitté ma province pour ça.
Vous faisiez des études
J'étais à ce moment-là, je venais d'entrer à l'école Estienne, où j'ai pas terminé l'année parce que je m'y sentais pas à mon aise. Mais oui, non, j'étais là pour ça. Non, mon idée, c'était de devenir une immense artiste contemporaine internationale. C'était ça mon idée, en fait, à ce moment-là.
Et alors, mais pourquoi de ça, l'idée de faire des dessins et des histoires destinées aux plus petits?
La première idée que j'ai eue pour vivre de mes dessins, ça a été d'aller place du Tertre. Ça a été un échec total. j'ai donc fait le portrait de mon premier client. Et c'était tellement moche que je lui ai supplié de ne pas me donner de sous. Et j'ai roulé le papier, je lui ai dit de partir, j'ai rangé mes affaires et j'ai filé. Et donc la deuxième, ça a été celle-là, de dessiner pour les enfants. Comment c'est arrivé ?
C'était un goût aussi que vous aviez plus jeune pour des histoires lues enfants ou...
Rétrospectivement, tout ça apparaît écrit, ça ressemble à du destin. Sur le moment, évidemment, j'y voyais pas si clair. Donc moi, j'habitais à la campagne, dans un endroit très isolé, sans bibliothèque, sans... Mais j'avais une maman institutrice. Et institutrice, qui avait commencé à être institutrice donc dans les années 70, et donc qui avait vu naître l'école des loisirs. Et comme tous les instits, un peu investis de l'époque, elle s'était dit « Ah, là, il se passe quelque chose, il y a une façon renouvelée de s'adresser à l'enfance. » Enfin, aux enfants, pas à l'enfance, aux enfants.
Il faut dire quand même que l'école des loisirs, ça a été vraiment un basculement, enfin, ça a marqué une étape très importante dans l'histoire des albums enfants en France.
Ouais. Donc j'ai lu beaucoup d'albums de l'école des loisirs petites, donc on habitait à la campagne, les albums qu'elle achetait pour sa classe finissaient à la maison, repartaient dans la classe, enfin. Donc j'ai lu ça beaucoup et pas grand chose d'autre. Donc c'est des choses qui m'ont qui se sont imprimées.
Et il y en a comme ça qui vous ont particulièrement marqué dans
on a vu passer à peu près tous les livres historiques de l'école des loisirs, Philippe Dumas, Arnold Obel, Maurice Sendak, je connaissais ça très 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 intimement quoi. Là où je parle d'une sorte de chose, de destin amusante, c'est que quand je pensais à faire des choses artistiques, très vite, mon intérêt s'est cristallisé sur la poésie visuelle des années 70. Donc, parallèlement à ça, je me suis dit que j'allais essayer de refourguer mes dessins à l'école des loisirs. J'ai rencontré de cette manière-là Arthur Hubschmidt, l'éditeur historique de l'école des loisirs, le fondateur de ses albums. Et puis, parallèlement, je continuais à me dire que j'allais finir par faire des machins, comme dans les années 70, de poésie visuelle, etc. Et au bout d'un moment, j'ai appris qu'Arthur, au moment où on s'est mieux connu, qu'Arthur avait une collection énorme de poésie visuelle des années 70, qu'il a été galeriste avant ça, et que... Il s'est finalement rabattu et il a fait sa carrière en tant qu'éditeur de livres jeunesse, mais voilà, son jardin secret était là. Et je me dis que très probablement, c'est parce que j'avais tellement bien lu les livres de l'école des loisirs que mes premiers intérêts artistiques, comme si j'avais lu son intérêt pour ses rapports texte-image ludiques, dans les livres pour enfants que j'ai lus enfant, et c'est ça qui m'a menée à m'intéresser à des gens comme Jean-François Bory ou Ursula Le Guin.
Ouais, et que c'était du coup peut-être pas un hasard que vous ayez été édité pour la première fois, si je dis pas de bêtises, dans cette maison-là.
Bien sûr. Bah oui, vous pouvez pas trop y en avoir d'autres, hein, je veux dire à 19 ans.
Et est-ce qu'il y a eu, ça a duré longtemps entre le moment où vous dites j'ai envoyé mes dessins à l'école des loisirs, le moment où on envoie ses premiers dessins quand on est un tout jeune auteur comme ça, et puis le premier livre, le tout premier livre édité?
Alors ce qui m'a arrangé l'affaire, c'est vraiment que j'arrivais de ma campagne. Et donc, les refus polis d'un éditeur du 6e arrondissement, je ne comprenais pas. On me disait non, je ne comprenais pas que ça voulait dire non. C'est-à-dire, non en 6e arrondissement, c'est pas non, évidemment. Donc, comme je ne comprenais pas que c'était non, je revenais.
Oui, parce qu'on vous disait, ce que vous faites est très intéressant, continuez, donc dans un langage très poli, mais c'est plutôt une bonne chose. Non, on dit pas comme ça? Comment
c'était
on dit non en langage?
On ne disait pas très intéressant. Ça ne convient pas, parce que... Non, je suis un peu rosse. Arthur Schmidt m'a dit à ce moment-là une phrase qui continue de m'éclairer. Il m'a dit, écoutez, dessiner, c'est très difficile, vous n'y arriverez pas. Ne dessinez pas.
Drôle de conseil pour un éditeur.
Oui, sauf que comme c'était dit sans terme, enfin, ce que j'ai fini par comprendre, à force de ruminer cette phrase, c'était que peut-être que dessiner, c'était pas le propos, là, que le propos, c'était de raconter une histoire, éventuellement de la raconter par l'image.
Oui, c'est aussi une caractéristique des histoires de l'école des loisirs. Ouais. Il y a un attachement vraiment au récit qui semble assez premier, qu'on retrouve aussi, du coup, dans vos histoires et qu'Arthur Schmidt défend pas mal. Dans sa manière d'éditer
absolument,
des livres.
Ouais.
Donc, ne dessinez pas, ça voulait dire concentrez-vous sur l'histoire que vous voulez raconter.
Exactement. Et les caractéristiques du dessin suivront. Commencez pas pour vous demander si vous allez le faire à l'acrylique ou ou au bambou.
Oui. Dans la nuit, on va entendre deux autres auteurs qui ont été édités par l'École des loisirs en France, Tommy Ungerer et Grégoire Solotareff. Et Grégoire Solotareff dit souvent qu'on écrit aussi des livres pour enfants quand on est soi-même resté proche de sa propre enfance. Il le dit aussi en disant on n'écrit pas pour plaire à des enfants, on écrit pour plaire à l'enfant peut-être qu'on a été, qu'on est encore. Est-ce que ça vous paraît juste?
Je pense qu'il y a, différents auteurs. Sur ce coup, je me sens assez proche de Grégoire, quoique nous pourrons y revenir.
Oui.
Mais alors, je suis aussi maintenant éditrice d'albums à l'École des loisirs, et c'est un vrai petit jeu très amusant que de se demander d'où les auteurs parlent. Alors, il y a des auteurs enfants, il y a des auteurs enfants-enfants, des auteurs enfants mais grands frères, aînés de la fratrie.
Enfants-enfants, vous voulez dire tout petits-enfants?
Ouais. Il y a des auteurs qui sont parents tout de suite. Et puis alors, dans les auteurs-parents, ils n'ont pas forcément d'enfants, hein, mais dans les auteurs-parents, il y a différentes qualités de parents. Il y a le parent qui a la pression de la responsabilité, il y a le parent qui se comporte comme un clown, quitte à peut-être foutre la honte à ses enfants, enfin, voilà. Et ce truc n'a rien à voir avec une réalité. Les auteurs-parents n'ont pas forcément d'enfants, c'est ça que je veux dire.
Oui,
mais c'est un
bien.
Positionnement, quoi.
Oui, oui.
C'est assez amusant.
Mais vous, d'ailleurs, dans les albums que vous avez faits, on va parler d'exemples concrets, mais il y a des albums qui sont plus pour les tout-petits, enfin, en tout cas, que les tout-petits peuvent apprécier. Je pense aux histoires d'Amir, je pense aux aventures de la famille Quichon, à Zouza, par exemple, on va en parler. Et puis, il y a des albums qui s'adressent à des enfants plus grands, enfin, disons, l'histoire est plus longue, etc. Vous avez commencé par être une auteure enfant-enfant et comment ça a marché pour vous? Vous avez tout de suite écrit des histoires?
Alors moi, je crois que j'étais enfant, puis sans m'en rendre compte. Enfin, voilà, les premiers livres ont quelque chose d'un peu magique parce que on a toutes ces valises de vécu. Et puis voilà, le livre offre une sorte d'opportunité d'ouvrir le sac et de voilà. Et moi, évidemment, à 19 ans, les valises que j'avais, elles étaient juste remplies d'enfance. Il n'y avait pas grand chose d'autre à ce moment-là. Et si j'avais quelque chose à dire sur la vie, c'était la vie depuis un point de vue d'enfant qui éventuellement regarde les adultes. Voilà.
Mais ça veut dire que c'est quelque chose qui évolue aussi au fil du temps. Vous avez beaucoup puisé dans votre enfance jeune et maintenant
beaucoup,
ça change.
Et puis après, une autre manière de faire s'est mise en place. J'ai souvent eu l'impression de partir de problématiques, j'aime pas dire ce mot, enfin de sujets ou de choses qui m'importaient en tant qu'adulte, et puis de chercher dans ces voilà ce qui m'affectait comme adulte, de chercher qu'est-ce qu'il y avait d'émotionnellement intéressant. Je peux vous raconter une anecdote?
Mais avec plaisir.
Un jour, j'ai reçu un courrier d'une instite qui travaillait en ZEP, donc avec des enfants soi-disant, bref. Tout le monde sait ce qu'on sous-entend avec le mot ZEP. Et alors voilà, elle avait lu les recherches d'une universitaire qui disait que l'arrivée des albums pour enfants dans les écoles, en fait, creusait le fossé culturel. Parce que il y avait des enfants, dans la classe, des enfants qui avaient déjà vu des livres à la maison et qui donc avaient de la familiarité pour ces objets, et d'autres qui n'en avaient jamais vu. Et qui ne savaient pas comment s'en emparer. Et donc, pour faire comprendre à ces enfants qui n'avaient jamais vu de livre que le livre pouvait parler d'eux, il fallait, en maternelle, au démarrage, n'utiliser que des livres très, 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 très réalistes. Du genre, Petit ours brun, qui met ses chaussons avant de passer à table, des trucs
comme
ça.
Que des choses qui renvoient à un quotidien des enfants.
Voilà. Et elle avait essayé de faire ça, sans aucun succès. C'est-à-dire que tout le monde s'en foutait dans sa classe. Et puis un jour, parce que ça traînait dans la bibliothèque de l'école, elle avait sorti un Zouza. Alors les Zouzas, c'est des livres qui sont en fait très abstraits, il n'y a pas de décor et il y a juste des relations.
Oui, il faut dire Zouza, donc c'est l'une de vos séries pour enfants. Ouais. C'est présenter en deux mots le livre pour ceux qui ne le connaîtraient pas. C'est donc une petite fille brune qui doit avoir, je ne sais pas, 7, 8, 9 ans.
Elle commence tout petit.
D'accord.
Les premiers, elle a l'air d'en avoir 4 peut-être.
D'accord, alors autant pour moi, je la vieillissais.
Mais elle a grandi. C'est pour ça.
D'accord. Alors c'est parce que j'ai en tête son grand moi. Et elle a un petit museau à la place du nez, un petit museau de chat. Oui. Et bon, il lui arrive diverses choses.
Et puis surtout, son interlocuteur principal, c'est un crocodile. Donc on n'est pas du tout dans des rapports réalistes parents-enfants. Et le crocodile, il a un statut mouvant, quoi. C'est le grand intercesseur avec le réel.
Oui, si c'est ça. On peut penser que c'est un ami imaginaire, mais c'est pas tout à fait. Il n'est pas imaginaire dans l'histoire. Enfin,
il n'est pas traité comme voilà. imaginaire. Ouais. L'histoire en tout cas.
Et donc tout ça pour dire, vous parliez de...
Et bah, du coup, le fait que le cadre soit abstrait, ça permet d'aller direct à ce qui moi m'intéresse, c'est-à-dire les choses qui se passent entre les personnes, sans définir qui est cette personne. Le crocodile n'est pas très définissable et elle avec son écharpe pas complètement non plus. Et c'était très intéressant la conversation avec cet instit que j'ai donc rencontré par la suite, puis on a fait des trucs super dans sa classe, parce que elle m'a vraiment aidé à formuler ça, que ce que je cherchais, même en partant d'anecdotes d'adultes, c'était ces courbes et ces fluctuations émotionnelles, c'est le meilleur mot, je ne sais pas en mettre d'autres en fait. Puis après je les rhabille avec des lapins, des crocodiles et ce qu'on veut pour que ça fasse une forme livre pour enfants, parce qu'il me semble qu'on est vraiment dans une littérature de genre, qu'on peut y mettre tout ce qu'on veut, mais il faut garder les formes.
C'est un cadre qui, à votre sens, est aussi une aide pour l'enfant et quelque chose qui... J'allais dire rassurant, mais je me rends bien compte en le disant que
non,
je ne suis pas sûre que ce soit le bon mot.
Alors s'il y a quelque chose comme ça, mais rassurant pour tout le monde, rassurant pour les parents aussi.
Oui.
Ce qu'on dit qu'on écrit des livres pour enfants, mais d'abord c'est les parents qui les achètent, et puis ensuite très souvent c'est les parents qui les lisent, donc on ne peut pas complètement négliger le filtre parental.
Il y a quelque chose que j'ai lu sous votre plume dans un article que vous avez écrit dans la revue Vacarme, à laquelle vous collaborez. J'ai trouvé très juste, vous dites, dans l'expression littérature pour enfants, ce qui compte, c'est pas tellement l'expression enfant, parce qu'au fond, on sait pas qui sont ces enfants à qui on écrit, mais c'est le fait que c'est une littérature
adressée.
Ouais.
Ah oui, j'ai dit ça?
Oui, vous l'avez même écrit.
Ouais, bah, j'aurais dû me relire.
Non, mais c'est un peu, ça rejoint ce que vous disiez là, c'est pour ça que j'y pense.
Oui, mais je trouve ça mieux dit que ce que j'étais en train de penser.
ça passe par un adulte et ça implique du coup pour vous en tant qu'auteur quelque chose dans la manière dont vous concevez les albums.
Oui, et le mot rassurant est bien. Hein. J'ai un ami qui écrit aussi dans Vacarme et qui m'a... C'est une formule frappante, j'aime bien parce que ça frappe quoi. Il disait que c'était de la littérature sous occupation. C'est-à-dire que l'auteur se retrouve à être le roi du marché noir, quoi. Il s'agit de faire passer des choses, mais de faire passer des choses, comme on sait, le marché noir, ça profite à tout le monde, hein, même à ceux qui interdisent le marché noir, voilà. Il s'agit de faire passer des choses, mais en contrebande. Il ne faut pas que ça se voie, il ne faut pas le dire trop frontalement.
C'est une chose qui est assez frappante dans vos albums. On parlait de Zouza. C'est vrai aussi, je pense aux albums surtout pour les plus petits, aux aventures de la famille Quichon. Alors la famille Quichon, c'est une grande famille de cochons. Il y a deux parents et puis il y a des petits cochons. Ils sont 73, je crois. Ils sont dessinés sur la page de garde. Alors on peut les découvrir quand on ouvre un livre d'une aventure de l'un des enfants Quichon. Donc il y a Hermès Quichon qui rêve d'avoir un animal domestique. Gaëtan Quichon qui a très peur d'un cauchemar et plein d'autres aventures. Vous n'avez pas encore écrit toutes les aventures
non,
de tous les membres.
Non, je vais y venir.
Et dans ces histoires-là, il y a aussi les albums d'Amir, qui est un petit garçon à qui il arrive des choses qui sont à la fois des choses du quotidien et en même temps, il y a toujours à un moment... Enfin, pas toujours, mais souvent quelque chose d'un peu merveilleux qui arrive. Et c'est vrai qu'on est détaché du quotidien, ce que vous disiez tout à l'heure. On n'a pas l'impression de simplement reconnaître ce qu'on voit tous les jours. Par exemple, Zouza, est-ce que vous pouvez nous dire comment le personnage, il est né? Comment vous avez commencé cette série? Puisque, en l'occurrence, ce sont des séries d'albums.
Alors déjà, c'est des séries qui ressemblent assez peu à des séries. Je veux dire, les gens qui sont un peu sérieux, les auteurs un peu sérieux, quand ils se lancent dans une série... Déjà, ils se fixent des objectifs atteignables. 73, c'était peut-être un peu beaucoup. Et puis, ils essayent de se tenir à une sorte de régularité parce que les lecteurs grandissent.
Oui, et puis mais pour la famille Quichon, c'est à la fois, il y a une récurrence, mais c'est pas à chaque fois le même personnage, parce que c'est à chaque fois un membre de la famille différent.
C'est une drôle de série, oui. Normalement, dans une série, on a un personnage récurrent, assez typé, ce qui provoque des aventures, etc. Et là, c'est tout le contraire, La série, c'est la famille et chaque livre est le portrait d'un des individus de cette famille.
Ouais, c'est ça.
C'était l'idée de départ, c'était d'avoir à la fois quelque chose qui soit un groupe et dans le groupe, il y a des tas d'individualités.
Et pour Zouza,
le déclencheur de Zouza, c'est une vraie petite fille, mais enfin elle est grande maintenant, elle a plus de 20 ans, que j'avais rencontrée, qui s'appelle vraiment Zouza, et c'est une petite fille polonaise. Je l'avais rencontrée en Pologne et j'avais passé du temps avec elle, je l'avais babysitée. C'est pas du tout une évidence, mais il se trouve que je ne parle pas polonais et qu'elle ne parlait rien d'autre que le polonais parce qu'elle était toute petite. Donc ça passait par,
par autre chose
mille
que
autres canaux que le langage. J'ai l'impression que le fait que ce personnage ait trouvé sa forme dans un cadre un peu abstrait et qu'elle soit tout en émotion non verbalisée, j'ai fini par l'utiliser comme une sorte d'alter ego, quoi. C'est-à-dire que je la chargeais de tout ce qui...
C'est un peu votre moi en...
Ouais, c'est mon moi en livre, je dis parfois.
En livre. Ouais. Mais c'est vrai que elle est confrontée à des... pas mal d'histoires à des situations de vie quotidienne. Par exemple, elle n'a pas envie de manger son dîner ou bien elle prend son bain. Enfin voilà, c'est des choses qui arrivent dans
ça
la
part
vie
comme
des...
Ça commence comme ça.
Et après, on s'envole vers complètement autre chose. Par exemple, dans l'album où Zouza est face à son dîner, tout d'un coup, le dîner s'envole. Le dîner se fait la malle. Et donc, elle part à sa poursuite.
Ça, c'était les trois toutes premières histoires. J'avais à l'esprit les livres qu'on appelle dans la profession là, les livres médicaments, c'est-à-dire les livres qui servent justement à pacifier le quotidien de l'enfant.
Une situation difficile,
voilà.
Que faire quand son enfant ne veut pas manger son dîner, on lui lit un livre sur le problème.
Les premières histoires ont un peu démarré sur un truc ironique comme ça. C'est-à-dire, ça m'amusait de partir de la scène critique du dîner, machin, la contrariété de l'enfant face à son assiette, tout ça. Et puis d'y aller vraiment dans la contrariété, quoi. Et de trouver d'autres illustrations de la contrariété et pas juste le parent qui dit gnagnagna, tout ça.
Oui, alors du coup, là, très concrètement, elle doit faire face à son dîner qui se fait la malle et donc elle s'envole à son tour. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de vos albums pour les tout-petits, cette chose de... On part d'une situation du quotidien, et dans les histoires d'Amir, le petit garçon, il veut pas dormir à la sieste à la crèche, et puis en fait, il remarque une mouche, et cette mouche, il part, et il marche sur les murs avec la mouche, donc il y a vraiment un truc de s'envoler à partir d'une histoire.
En même temps, là, c'est l'heure de la sieste, donc on peut se dire qu'il est dans une sorte de demi-sommeil ou rêve.
Oui, on peut imaginer que...
On s'en fiche, mais voilà.
Que c'est un rêve.
La différence entre Zouza et Amir, c'est que donc Zouza, c'est un personnage ancien, et j'avais pas d'enfant, et c'est devenu un genre de moi, et dans la manière de dessiner, je me suis toujours, mais vraiment contre-fichée de ce à quoi elle ressemblait. C'est drôle parce que c'est un livre qui a un drôle de destin, c'est-à-dire que je crois comprendre qu'il est très... aimé par les petits, mais ça a toujours été des bides de vente parce que le personnage met un peu les adultes mal à l'aise, parce qu'elle n'est pas mignonne, quoi. Et c'est vrai que, comme je la dessine très expressive, elle a trop de traits sur le visage, et alors que les enfants, ils n'ont pas de traits, c'est des espèces de petites billes toutes lisses, comme ça. Elle porte toute son émotivité sur le visage, et ça en fait pas un enfant comme les adultes le voient. Donc, voilà.
D'autant plus avec ce petit museau qui fait d'elle un petit animal.
Oui, voilà. C'est ça. Et quand j'ai fait les histoires d'Amir, mon fils, qui s'appelle Amir, était né. et je me souviens d'un espèce de scrupule dans le dessin, un énorme scrupule. C'est-à-dire que je le voyais là avec son petit visage d'abricot et j'avais envie de raconter ça, j'avais envie de raconter ce petit visage d'abricot et je me suis dit, ah oui, en fait, il s'est quand même vraiment passé quelque chose, c'est que c'est plus toi l'enfant, le héros, voilà, là, c'est un héros que tu regardes. Et il y a eu quelques livres comme ça, Le garçon qui ne connaît pas la peur aussi, où j'ai eu vraiment l'impression d'être éjectée de mon ancien dessin parce que... c'était plus une enfance vue de l'intérieur.
Une enfance vue du côté du parent.
Voilà, j'avais un vrai enfant et pour lequel évidemment j'avais pas mal d'affection sous les yeux et j'avais envie de rendre quelque chose de la tendresse que ça me ça fait des livres un peu détonnants dans Bon, et puis comme c'est un enfant qui, de toute façon, a décidé qu'il ne lirait jamais le moindre de mes livres, il a vraiment enjambé bon, toutes les publications de l'école des loisirs. Hein, il ne veut rien avoir avec ça. Je me suis dit, bon, bah ok, continuons chacun notre route. Et je suis là, j'ai l'impression d'être revenue voilà, au dessin qui m'est le plus familier. Mais il y a une sorte de parenthèse comme ça.
Qu'est-ce que vous disiez, vous rappeliez que vous êtes aussi éditrice, vous êtes devenue éditrice au fil des années. Qu'est-ce que vous attendez de votre éditeur, d'un éditeur en général? Et qu'est-ce que vous, du coup, vous essayez de transmettre aux auteurs avec lesquels vous travaillez?
Alors, ce que j'attends d'un éditeur, c'est devenu difficile parce que ça fait un bon petit moment que j'ai plus vraiment d'éditeur. Le travail avec Arthur Hubschmidt s'est distendu au moment où je suis devenue sa collègue, on peut dire. Ce qui n'est pas une force, voilà, c'est pas super, je dirais. J'aimerais bien rencontrer un autre éditeur.
Ça vous manque de avoir un regard
Et comme éditrice, je me formalise pas de grand chose sur les qualités plastiques. Je dirais même que si j'ai une petite spécialité, c'est que j'ai publié et accompagné des gens qui, au départ, étaient vraiment des brèches en dessin. Qu'on fait quand même quelques progrès parce qu'on travaille, mais voilà, c'est pas ça leur truc et c'est pas ça, moi, dans ma position d'éditrice, qui accroche mon intérêt. Mon intérêt, il est sur l'histoire. En ça, je suis vraiment dans le dogme école des loisirs, presque. Et plus encore sur une façon sensible de les raconter, ces histoires. C'est très bien s'il se passe des milliards de choses et que les aventures sont rocambolesques, mais il n'y en a pas forcément besoin. S'il y a de la justesse, voilà, c'est important.
Une question que je me posais en lisant vos albums aussi, c'est comment est-ce que vous construisez les choses? C'est-à-dire, par exemple, il y a beaucoup d'histoires où tout d'un coup, l'image prend toute la place, le texte disparaît, c'est très agréable quand on les lit, même si en tant que parent, parfois, on se dit, est-ce qu'il faut commenter ou pas? Enfin, voilà, mais c'est vraiment... voilà, des moments, il y a des ruptures de rythme comme ça, du coup, dans la lecture.
C'est une chose très rythmique, en fait, l'album. Oui, on parle ça. Toujours le texte, l'image, mais en réalité, dans ce genre d'album-là, hein, pas dans tous, mais dans ce genre d'album-là, avec les auteurs avec qui je travaille, on passe un temps, mais dingue, sur le storyboard. C'est-à-dire, les dessins à ce stade-là, c'est des patates. Et voilà, la façon dont texte et image ce rythme, ce syncope, ce couple la parole.
Mais ça veut dire du coup que vous travaillez, donc vous me parlez de storyboard, avec à la fois la composition du dessin et du texte. Premièrement, il n'y a pas d'abord le dessin ensuite le texte.
Ouais.
Et la couleur vient dans un deuxième temps.
C'est tout à fait à la fin. Souvent la couleur est également une manière de raconter. La couleur est très narrative, mais je ne voudrais pas faire de généralité parce que y a mille manières de s'y prendre, mais c'est vrai que là où je suis en tant qu'éditrice vraiment casse-pied, c'est sur ça, c'est sur la rythmique de l'album.
Donc tous les auteurs avec lesquels vous travaillent de cette manière-là?
C'est une chose sur laquelle on passe du temps, ouais.
Non, mais c'est peut-être évident, mais alors moi je pensais que en fait ça dépendait des auteurs, que certains travaillaient d'abord à partir juste d'un dessin et n'intégraient le texte que dans un deuxième temps.
Ça se peut. Je vais donner des exemples alors. Je vais parler d'Audrey Poussier. Alors Audrey Poussier, elle arrive avec une idée d'histoire. Souvent c'est pas très en place. Il y a des moments de l'histoire, mais le début est pas forcément là, la fin pas complètement non plus. Donc on commence par essayer d'installer cette histoire-là dans un chemin de fer, un storyboard, un chemin de fer. Concrètement, ça se présente par des petites vignettes de dessin et puis quelques lignes de texte. Le texte n'est pas forcément définitif. Voilà. Et on essaye de l'organiser comme ça. Et là-dessus, une fois que cette chose-là est établie, Audrey rentre chez elle et elle se met à dessiner, pas forcément des dessins qui vont tomber pile poil, page 12, voilà, c'est ça qui se passe, c'est que ça. Non, elle a besoin de s'immerger dans l'univers qu'elle va raconter pour être sûre de cette manière-là que le livre existe. En fait, tout le truc, c'est... Parce que c'est quand même un... J'enfonce des portes ouvertes, mais le truc d'être auteur, c'est que... Avant que le livre existe, il n'existe pas. Il n'existe nulle part. Et chaque auteur a une astuce pour se rassurer, pour se conforter dans le fait qu'il suffit de le faire pour qu'il existe. Voilà. Alors, il y a des auteurs pour qui, comme Audrey, ça passe par l'image. Elle a l'impression que quand le dessin se trouve, alors ça veut dire que le livre doit être là quelque part et que ça vaut le coup de passer du temps à chercher. Voilà.
On a parlé de pas mal des albums que vous avez fait pour les petits. On n'a pas eu le temps et je crains déjà, je vois l'heure qui tourne, qu'on n'ait pas beaucoup le temps d'évoquer les autres. Mais il y a aussi des histoires plus longues et parmi elles, des best-sellers. Je pense à La soupe aux cailloux, par exemple, ou au Déjeuner de la petite ogresse, qui sont des albums qui sont bien vendus. Je dis ça parce que quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit ce sont des albums qui me procurent une sorte de rente grâce auxquels je vis
c'est vrai.
Encore aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, est-ce que... Comme auteur, on sait pourquoi un album marche. Est-ce que c'est une surprise ou est-ce que quand même, on se dit peut-être seulement rétrospectivement, on comprend qu'est-ce qui fait le succès d'un album ?
Je crois que j'ai pas beaucoup de talent pour ça, en tout cas.
Pour les albums à succès ?
Ouais. C'est-à-dire qu'il m'arrivait quelquefois de croire que je tenais une idée mais merveilleuse, que ça allait être mon nouveau carton, etc. Et vraiment pas du tout. Une soupe aux cailloux, je sais que je l'ai amenée à l'époque, je travaillais encore avec Arthur Hubschmidt et je la lui ai apportée en disant vraiment, hein, te sens pas obligé, hein, si tu la prends pas, c'est pas grave. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu tarte. Voilà. Donc ouais, non, en tout cas pour les miens, je n'ai pas le nez creux, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Un tout petit peu plus pour les auteurs avec qui je travaille. Mais voilà, j'ai cette chance énorme quand même de travailler dans une maison d'édition qui se soucie de faire vivre les livres très longtemps, ce qui permet même quelque chose qui n'est pas un succès là tout de
immédiat.
Suite dans les trois premiers mois, ouais. Ce qui permet de lui donner une vie, de le faire connaître et petit à petit, etc., etc. J'espère que ça va pas changer. Ça devrait toujours être comme ça, l'édition. Parce qu'évidemment, quand quelque chose d'un tout petit peu nouveau, pas la révolution, hein, mais un tout petit peu nouveau arrive, on le reconnaît pas. C'est ça, toute l'histoire des arts.
L'année dernière, au moment du Salon de Montreuil, il y a eu une mobilisation, notamment des auteurs jeunesse, qui faisait suite à plusieurs choses, mais en tout cas, les auteurs se mobilisaient pour dénoncer la précarité dans laquelle beaucoup d'auteurs et illustrateurs vivent. Précarité qui a plein de facteurs, c'est assez compliqué, mais parmi les facteurs a été pointé le fait que les droits d'auteur sont particulièrement faibles pour les auteurs jeunesse, faibles en général pour les auteurs, mais particulièrement pour les auteurs jeunesse, autour de 5% en moyenne, enfin, ouais, voilà, ce qui fait pas beaucoup, et beaucoup d'auteurs disent qu'ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas vivre de leur travail. Et il y a eu des chiffres qui ont été publiés qui étaient assez étonnants sur le fait que près de la moitié d'entre eux, je crois, vivaient avec moins d'un SMIC et beaucoup même sous le seuil de pauvreté.
C'est-à-dire que 6%, si le livre ne vit pas, s'il a une durée de vie de 3 mois, je sais que ça paraît très bizarre de l'extérieur de penser que pour faire un petit livre de 24, 32 pages, l'auteur y a passé une année. Mais c'est quand même souvent la réalité parce que, comment dire, c'est pas au volume que ça se paye, c'est trouver le bon angle, la bonne synthèse, etc. Donc évidemment, si on touche 3%, que le livre n'a pas une reconnaissance immédiate et qu'il disparaît, un an de travail pour un avaloir qui doit être autour de 2000, 3000, ça marche pas, ça le fait pas, quoi.
Et c'est chose qui s'aggrave, à votre sens, aussi dans votre travail d'éditrice. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus difficile aujourd'hui d'entrer dans ce métier et d'arriver un jour à en vivre qu'autrefois ?
Ce qui complique évidemment la chose, c'est que à peu près toutes les maisons d'édition se sont mises à faire du livre jeunesse. Donc la production est beaucoup, 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 beaucoup plus importante. Alors à la fois, on peut dire que c'est joyeux, ça veut dire que tout le monde a sa chance, tout le monde peut trouver une petite place, etc. Mais la contrepartie, c'est que les livres ne durent pas, que les auteurs se mettent à les faire sûrement aussi de plus en plus vite, donc les livres sont peut-être, pas toujours aussi bons qu'ils le devraient pour avoir une vie. Enfin, c'est un cercle infernal, quoi. Il y aurait 1000 choses à penser, en fait.
Pour améliorer le statut des auteurs, vous voulez dire.
C'est pas complètement nouveau. Je veux dire, il y a tout un tas de choses que l'école des loisirs a inventées. D'une part, le livre de poche pour enfants. Ça existait dans d'autres pays. Ça existait au Japon, si je dis pas de bêtises, peut-être aussi en Angleterre. Mais en France, c'est l'école qui a commencé, reprenant en ça une idée du Père Castor, d'ailleurs.
Oui.
Sauf que le Père Castor, c'était direct en souple. Alors que là, il y a d'abord
des albums cartonnés, et ensuite une parution en format souple.
Voilà, le système des livres par abonnement, etc., qui permettent de donner une visibilité monstre à des livres qui n'ont pas forcément eu le succès dont en interne on pense qu'il aurait été mérité.
Voilà. Ouais, ouais.
Et soudain, voilà, ce livre qui n'a pas eu tant de succès que ça, à sa sortie en cartonné, se trouve imprimé à 100, 150 000 exemplaires et ça, bah évidemment, ça prolonge sa vie. Soudain, on le voit et...
Oui, oui, c'est un travail, voilà. C'est un travail sur le temps long, voilà. Pour lequel il faut militer.
C'est des choses qui peuvent être inventées par les éditeurs, mais c'est pas si simple, hein.
C'est des modèles compliqués à mettre en place. Bon, en tout cas, nous, on va, cette nuit, replonger dans le temps long, puisqu'on va écouter plusieurs choses qui nous ramènent à la longue histoire de ces albums en France. Le Père Castor, justement, on va commencer la nuit par une émission qui s'appelle Dans les albums,
c'est une très belle émission du
Père Castor que vous connaissiez. C'est un documentaire de Catherine Decopé, réalisé par Anne Fleury, qui avait été diffusé dans La Fabrique de l'Histoire en 2015. Et tout de suite après, un autre album qui a pas mal compté dans cette longue histoire, l'histoire de Babar le petit éléphant. C'est Coralie Séric, la comédienne, qui avait choisi de le lire pour l'émission Première lecture, lecture d'enfance, proposée par Marguerite Gâteau. C'était en 1989. Après quoi, on accueillera Sylvie Vassallo et Nathalie Donikian, respectivement directrice et directrice littéraire du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Elles nous parleront du programme cette année et puis on reparlera avec elles de ces questions du statut des auteurs. Quant à nous, Anaïs Vaugelade, on se retrouvera au petit matin à la fin de la nuit pour la conclure. Merci beaucoup.
Merci.